Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
La matière organique fait partie du cycle de la vie et il est important aussi de savoir la travailler. La matière organique, nous en avons discuté récemment et après nous avoir entendu, vous le savez maintenant, compost bien géré ne doit pas effrayer. Vous pouvez le dire, le répéter, un jour ça deviendra même un proverbe, mais la gestion de la matière organique, ce n'est pas que le compost royal de Hélène Hollard, c'est aussi tout un tas d'autres choses, du lombricompost, on pourrait même presque reparler du paillage. Parce qu'aujourd'hui, la gestion de la matière organique, c'est encore une fois le thème de notre discussion. Nous sommes un peu restés sur notre faim la dernière fois. Alors, avec Titanou Ben.
Bonjour.
Et Hélène Hollard.
Bonjour.
Nous avons décidé de réinviter Estelle Meignan de l'association Nouveau Voyage, qui propose des activités autour de l'écologie environnementale, humaine, des formations, de l'animation, des spectacles. Et qui
bonjour.
A été, bonjour Estelle, chargée de mission près de Trièves Compostage. Donc on est très heureux de te retrouver aujourd'hui.
Et moi de même.
Autour de nos micros. Mais avant de commencer notre discussion, la suite presque de notre discussion il y a quelques semaines sur la gestion de la matière organique, c'est le temps des questions que nous avons prises sur les réseaux, mais que vous pouvez envoyer à question@radioperma.org, question au singulier. Alors les questions, les voici. Alors c'est Vincent Raquet, ou Raquette, je ne sais pas trop, qui nous dit « Bonjour à tous, j'ai une petite question, mes chats font leurs besoins dans le paillage du potager. » Ah mon Dieu, est-ce grave docteur? Alors, est-ce grave docteur? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, les chats, oui, c'est souvent le problème hein, dans les jardins. Ouais.
Et c'est un problème
alors,
ou pas?
Moi j'ai entendu dire... qu'il y a des quand même des ça peut passer des germes voilà les et que généralement les litières de chat ça se met pas au compost on les met vraiment à part quoi.
D'accord.
Ouais, il y a peu de litière animale, sauf le fumier qui se met dans le compost.
C'est une question de contamination. Donc toi, tu mets la litière de chat au compost?
Non, ouais, quand je fais, parce que ça dépend, ouais. Je pense, du support de la litière. Maintenant, on trouve des litières en fait qui sont de la sûre ou des choses comme ça. Parce qu'après, les parasites ou les germes pathogènes, si le compost chauffe, ils seront détruits. Mais c'est vrai que souvent les litières, c'est pas organique. Mais bon,
c'est
pour les très
souvent.
Les litières
Après, c'est de plus en plus qu'on trouve des litières organiques. Donc, enfin, plus en plus, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'en ai trouvé. Donc, pour cet aspect-là, après, c'est surtout. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi le côté l'odeur. Quand on prend de la paille, ben, ça sent bon. On s'attend à trouver de la paille. Enfin, moi, j'aime pas travailler avec des gants, donc j'ai toujours les mains dans la paille. Du coup, on se met les mains dans le caca de chat, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc les chats dans les jardins, c'est une gestion compliquée, ouais. Ouais.
Et ça chasse le campagnol au moins ou pas?
Les chats aussi sont bons chasseurs, oui, mais pas tous. Hein. Oh. Puis les bons chasseurs, ils tuent aussi les oiseaux.
Ouais,
enfin bon, les chats, c'est sympa quand même.
Ah oui?
Oui.
Je dirais que madame aime les chats.
Oui, mais c'est vrai que quand on fait des semis, après il y a un système, parce que c'est vrai que quand on prépare la terre pour faire les semis, je trouve que c'est là que c'est vraiment le plus embêtant, et ben, on peut mettre un grillage à poules posé dessus. Et comme ça, jusqu'à ce que les plantes sortent, en fait, les chats ne peuvent pas gratter, et du coup, on est tranquille.
Du hou, peut-être aussi.
Non, c'est pas très sympa, ça.
Non, mais c'est pas pire que le grillage à poules.
Oui, Et un japoule, c'est juste que tu les ils peuvent pas gratter.
Ils peuvent
quoi.
Pas gratter. Bah, ou ça pique. C'est un peu pareil. Ils peuvent pas spécialement. Ah oui,
bah,
dire,
ça
ils
pique
peuvent
quand
passer.
Même. Tu vas leur faire mal.
Mais moi, j'aime pas les chats.
Oui, je sais. Je sais. Ouais. Mais bon, même tu peux avoir les chats du voisin qui viennent.
Oui, je sais. Moi, chez moi, c'est ça.
Courir après tes poussins.
J'en ai 5. Non, non. Une ressource en viande, les chats. Voilà.
Pour le compost, tu veux dire?
Bah voilà, en fait, oui, ouais. C'est gênant, les chats, sauf si vous ça vous gêne pas d'avoir les doigts dans le caca, mais a priori, c'est pas...
Bah, voilà. Après, ce qu'il peut faire, c'est il ou elle, j'en sais rien, je sais pas.
C'est
attention,
Vincent.
Oui. Et ben, c'est prendre les endroits, parce que c'est assez localisé, un caca de chat. Et en plus, souvent, ils vont faire leurs besoins au même endroit. Donc, on peut prendre l'endroit où ils ont fait leurs besoins, et puis mettre au compost, et après, maîtriser le compostage pour que ça chauffe. Comme ça, au moins... Bah oui, ça peut.
C'est une gestion.
Oui.
Question suivante de Sophie Dufour. Bonjour, lors d'un stage en permaculture, on nous a parlé des bienfaits de la consoude. C'est très bien, ça devait être un très bon stage. Comme la sauge, il en existe beaucoup. Laquelle est la bonne variété? Alors, la bonne variété
la bonne,
de consoude.
Oui. Savoir la bonne par rapport à quoi?
La bonne, c'est ça, c'est un peu...
Parce qu'elles sont toutes bonnes par rapport à ce qu'elles contiennent et par rapport à ce qu'elles vont apporter. Par exemple, dans le compostage, on peut mettre de la consoude. Et puis, on va faire des extraits fermentés avec, on va faire plein de choses. Elles vont, par les fleurs, ça va attirer les pollinisateurs. Donc, tout ça, ça va être valable pour toutes les consoudes. Après, il y a des consoudes qui sont plus envahissantes que d'autres. Alors, et puis, elles sont moins hautes, elles font moins de végétation. Donc, voilà, mais après, elles ont toutes un intérêt, parce que celles qui se propagent beaucoup, ben, on peut en passer à nos voisins, faire des échanges, l'utiliser. Et puis, celle qui est la consoude officinale, qui fait des très grandes plantes et qui va moins se propager... Bon, ben, on pourra plus la manger, on pourra plus faire des choses avec et elle se propagera moins. Donc, disons qu'à chaque fois, il y a des qualités et des contraintes qui sont différentes. C'est plutôt ça, quoi.
Donc, il faut savoir ce qu'on veut pour obtenir ce qu'on veut.
Exactement. En général, c'est comme ça.
C'est un peu comme ça, mais non, mais bon, c'est...
Saint-Exupéry, il l'a dit plus joliment que ça. Hein.
Ah bon, il a dit comment?
Je ne sais plus comment il l'a dit. Là, ah qu'il faut savoir que le vent souffle. Que
ah, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Par exemple, là, que le vent souffle, à condition qu'on sache où on veut aller. Quoi. Mais en gros, c'est ça. Quoi. Mais il n'y a aucune consoude qui soit mauvaise, en tout cas.
Ok. Michel Guillonvarch, ou Guillonvarch, je ne sais pas, c'est probablement breton. Oh, on nous écoute de loin. Bonjour à tous, je veux mettre des plants de tomates sous serre. Ma question est-ce que je peux mettre plusieurs pieds de tomates différents sous la même serre? Pour la pollinisation, va-t-il y avoir des croisements?
Plusieurs variétés, il veut dire, quoi.
Ouais, je pense. Ouais.
Donc la réponse est non, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce qui me gêne plus, c'est que ce serait bien qu'ils ne fassent pas de la monoculture de tomates. Et qu'au milieu de ces tomates, ils mettent du basilic, des œillets d'Inde, d'autres cultures. Quoi.
Des choux, des carottes.
Ce qu'il veut, mais qu'en tout cas, pas, qu'il n'y ait pas que des tomates.
Ce qui va bien avec. Le chou, je sais que le chou,
ça va. Ce qui va bien avec, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien avec les tomates.
Oui, les tomates, c'est vrai que ça se prête.
Ah oui, tu peux mettre plein de choses, des salades, des plantes. Voilà, mais sinon, sur la pollinisation, non, il n'y a pas de risque de croisement.
De croisement, c'est auto-fertile, comme on dit.
Voilà, donc il faudra qu'il écoute la prochaine émission sur les semences, où la spécialiste va expliquer les différents types de plantes, comment elles fonctionnent, comment elles se multiplient, comment on peut faire les semences, tout ça.
Valérie Abadzian.
Avec Valérie Abadzian, oui.
Oui, voilà, c'est sa prochaine fois, exactement.
Donc voilà, où il y aura plus de détails sur les risques de pollinisation croisée, tout ça.
La prochaine fois ou la fois suivante. Enfin, je sais
enfin,
plus.
En
tout cas,
jour,
il y a,
dans il pas a très longtemps, à chaque fois, comme ça,
dans pas très
un
longtemps,
jour.
Non, mais dans pas très longtemps, on va parler effectivement semences, croisements, pas croisements, distance entre les plantes, et c'est une thématique importante.
Voilà, parce que ça peut arriver qu'il y ait des croisements dans les tomates, mais c'est rare et c'est pas... Oui, c'est rare.
Mais ça se voit plutôt pour les courges.
Oui, oui, pour d'autres trucs. Mais les tomates, ça peut arriver. Mais comme lui, il ne fait pas de la reproduction, la production de semences. Là, en tout cas, il ne parle pas de ça. Donc, ce n'est pas les mêmes critères qu'on prend
Et puis
en
les
compte,
fruits, de toute façon, vont sortir.
Cette année, ça sera bon.
Ils seront bons. Si, normalement, c'est, ouais. On appelle ça ces races sont pures et ces variétés sont cultivées correctement et qu'il a un bon semencier.
Oui, voilà. Il pourrait avoir des problèmes s'il faisait ses semences à répétition.
Peut-être que c'est
qu'il
le cas.
Aurait un accident un jour. Donc, qu'il écoute l'émission.
Voilà. Bon ben voilà Michel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Continue d'écouter Couleur Terre. Nous on va s'écouter un disque en attendant et aujourd'hui on écoute Pauline Croze d'un disque qui date un peu, qui s'appelle Mise à nu et on va écouter le titre éponyme, Mise à nu, enfin éponyme, je ne sais pas. Ben, bonne écoute, à tout de suite.
disparu, comme un coup de flingue un peu sonné. Je tombe du lit, c'est comme ça, toutes les nuits, depuis que t'as disparu de ma vie. Sur les toits de Paris, c'est là que je finis mes nuits. Du lundi au dimanche, mise à nu, mes jours sont des nuits blanches. Mise à nu, là dans le désert de nos amours, j'ai marché des heures, j'ai rien vu. Malgré mes prières, quelques vautours venus là par erreur face au vent. J'ai si peur depuis que t'as déserté ma vie. Je ressens la terreur, je sais plus très bien qui je suis. Du lundi au dimanche, mise à nu, mes jours sont des nuits blanches. Tous les avions sont passés me voir. À l'horizon, le ciel est noir. Quand les histoires se terminent mal et qu'on les ramasse, y a des silences et des souvenirs qui laissent des traces.
Couleur FM 97.1. C'était donc Pauline Croze, et pendant la pause, ce technicien m'a bien dit que si l'album s'appelle Mise à nu, le titre que nous venons d'écouter est bien éponyme. Donc, nous sommes dans une émission qui s'appelle Couleur Terre, votre émission de jardinage, permaculture et agroécologie préférée, et nous parlons gestion de la matière organique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler un peu par îlot, il n'y aura pas forcément de fil conducteur. La dernière fois, on avait fini l'émission sur le lombricompostage et on avait un peu évacué le lombricompostage. Du coup, ça y est, on a un peu le luxe de pouvoir en reparler parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent en ville, par exemple, qui font du lombricompostage sur leur balcon. On avait dit que c'était pas du tout la même chose qu'un compost qui travaillait de manière bactérienne avec des microbes. On attendait à ce que la flore intestinale du lombric fasse le travail de purification pour nous. Est-ce que le lombricompostage s'est adapté à tous les balcons? j'y vais directement.
Pas forcément les balcons, même s'il n'y a pas de balcon, on peut avoir un lombricompost dans sa cuisine ou dans son salon. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient leur lombricompost sous l'escalier, dans des appartements.
Et inversement, on peut avoir du lombricompost en plein air, on fait un andain, on protège les vers. En fait, le lombricompost, c'est de l'élevage de lombric, l'élevage de vers.
Ouais, donc il faut aimer élever des petits animaux.
Ce sont Esenia fétida, d'ailleurs, on dit lombricompost.
Esenia, ouais, il peut y avoir un mélange.
Fétida ou d'autres, ouais. Oui, il faut avoir envie parce qu'ils ont quand même besoin de manger, de conditions de vie, pas trop chaud, pas trop froid. Après, ils se multiplient beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de vers? Enfin bon, c'est tout un... Ouais, c'est un
élevage. Alors, il y a des réseaux, en fait, où on peut donner ses vers.
Voilà, les vers, puis les jus, parce que le lombricompost, ça fait beaucoup de jus. Donc, qu'est-ce qu'on fait des jus une fois qu'on a arrosé toutes ces plantes? Eh ben, il faut trouver des gens à côté.
Le jardin public ou le jardin des voisins.
Voilà. Donc, ça demande de... c'est beaucoup, moi, je trouve, personnellement, c'est beaucoup plus compliqué de gérer ça que de...
Alors, par contre, c'est quand même une possibilité pour des personnes qui sont en ville, qui n'ont pas de jardin à proximité, de pouvoir gérer leur matière organique sur place. Et je dirais, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mettre tous les déchets, c'est restrictif. Parce que les petits lombrics, ils ont un intestin un peu fragile. Ouais. Donc, on ne peut pas la mettre les agrumes, ni tout ce qui est aillé, voilà, les épluchures d'oignons, les poireaux. Ah, on va éviter ça. Ah, et les pommes de terre, la peau des pommes de terre, on ne sait pas pourquoi, mais ils ne mangent pas la peau.
Il faut leur mettre un peu des cartons.
Alors, il faut aussi mettre un peu de matière carbonée, matière sèche.
Oui, il faut que ce soit
les cartons, les boîtes à œufs, les rouleaux de papier de toilette ou d'essuie-tout, des choses comme ça, des boîtes, des cartons fins. Ça marche bien, quoi.
Et puis... l'alternative au lombricompost, parce que comme moi, j'aime pas trop ça, je cherche toujours des alternatives.
Ouais, voilà.
C'est le compostage en pied d'immeuble, c'est-à-dire qu'à plusieurs, en ville, il y en a quand même de plus en plus. Hein. Au lieu que chacun fasse son lombricompost dans son coin, c'est de faire soit un lombricompost partagé, mais surtout un compost au pied d'immeuble, qui permet de gérer des déchets, parce qu'on n'en a pas beaucoup, et qui est plus facile à gérer.
Ouais, c'est une autre gestion.
Voilà. Moi, on a le droit d'aimer les Azénia fétida ou autre.
Oui, bah voilà.
Andrei.
Oui, Andrei.
Il y en a qui aiment les chats, tu vois.
Pourquoi pas, tout est possible.
Moi, j'ai eu plus d'Essénia dans ma vie que de chats, voilà.
C'est une expérience, en fait.
Oui, et puis moi, ça s'est mal terminé avec les Essénia. Ils ont décidé de fuir mon compost, mon lombricompost. J'ai dû faire une erreur. J'avais fait mon lombricompost moi-même avec des bacs de poissons que j'avais récupérés sur le marché du polystyrène. Je sais que Hélène, tu n'aimes pas le polystyrène, mais bon, il était là, je l'ai pris. Et j'avais fait mon lombricompost en étage et ils se sont fait la malle.
Pas le polystyrène.
Ils n'aimaient peut-être pas le polystyrène.
Ouais,
voilà, c'est
pas que ça, je crois.
Je pense qu'il y avait j'avais peut-être fait des erreurs. C'était à mes débuts, j'avais peut-être fait des erreurs de nutrition de mes vers. Et c'était très triste parce que je les voyais fuir, ils sortaient.
Il faut les laisser. Il y a un stress quand on met les vers dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Il y a un stress. Du coup, il faut vraiment les habituer tout doucement. Il faut leur préparer une litière pour les accueillir avec déjà du terreau déjà fait et très peu de matière organique au départ pour qu'ils puissent en fait reconnaître leur terrain, mettre leur marque en fait. Et ensuite, au bout de plusieurs jours, une dizaine de jours, une semaine, 10 jours, on peut commencer à mettre des déchets organiques, mais pas trop non plus. Et au fur et à mesure, voilà. Alors, voilà, il y a tout un démarrage en douceur.
Après, moi, j'ai fait une expérience un peu différente, parce que je mets donc les déchets de cuisine, tous les déchets organiques, ça, je les mets en tas. Et comme là, j'ai été immobilisée pendant un certain temps, je n'ai pas pu aller faire mon compost comme j'aime le faire et tout ça. Et en fait, les lombrics se sont installés dedans. Donc j'ai eu un lombricompost qui s'était fait tout seul. Ils sont installés dans le tas que j'avais mis en stockage, quoi, et ils ont commencé à travailler. Tout ça. Donc mon tas de compost s'est transformé en lombricompostage. Dehors.
Qu'est-ce qu'on aime en permaculture, voilà, quand des gens sont heureux de faire le travail que nous n'avons plus besoin de faire, même si ce sont des gens tout mous et sans os à l'intérieur.
Travail partagé.
Voilà, sauf que ça ne fait pas le même produit final.
Non, ça ne fait
donc,
même produit,
pas
le même produit.
Non.
Compost royal, tout ça, voilà. bien
ah
cuit.
Ouais. Ça n'a rien à voir.
Hein. La tagine et tout.
Non, c'est pas du tout la même texture, c'est pas la même qualité. Donc on peut pas, par exemple, un compost fini, mûr et tout ça, il va améliorer la structure de la terre. Il va améliorer votre terre, on va dire, sa perméabilité, plein de choses. Lombricompost, non. Hein. Parce qu'il va rester
très humide,
compacté,
très compacté.
Donc c'est pas du tout les mêmes utilisations. Quoi.
C'est pareil, le lombricompost, il a besoin de ses petits soins, d'humidité, mais pas trop. Il faut arroser.
C'est ça, ouais. Et moi, je le remue aussi pour le décompacter. pour amener un peu d'oxygène en fait.
Sachant que après du coup ça demande aussi le matériel parce que l'ombricompost soit on le fait sur le terrain comme tu dis
directement. Ils ont dû geler les miens hein, je pense.
Ils sont ça descend quand même. Ça descend parce que 50 cm sous terre ça fait 15 degrés toute l'année donc normalement après différents types de verres, il y a ceux qui restent
dessus. Oui, puis ça peut être aussi
les anisiques qui font l'aller-retour, ça peut être les futurs verres. Voilà. Pour le lombricompostage, on a fait notre petit tour. Il y a le thé de compost de lombricompost qu'il faut diluer 10 fois parce que c'est très riche. On en a parlé. Voilà, pour le tour. Ah oui, les verres, pour les trouver.
Trouver et puis pour les partager.
Ouais.
Parce que vite, il y en a trop. Et moi, je trouve un des avantages plus qu'agronomiques pour ma part, c'est l'avantage social, entre guillemets, du lombricompost. C'est-à-dire qu'on a du jus, donc on va le partager avec quelqu'un. Enfin bon, on va être obligé. Et puis les verres, on va vite en avoir trop aussi, donc voilà, donc ça a un côté social quoi.
C'est rigolo quand tu parles de ça, ça me rappelle, j'ai eu mon levain par quelqu'un qui fait son pain, c'est un peu la même chose, et oui, le levain c'est une expression que tu utilisais aussi l'autre jour sur le compost, qui est quelque chose de fermenté, qui est préparé, donc... J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'élever quelque chose de vivant, quoi. Pour les vers, c'est évident, mais même pour le compost, il y a un truc qui est très. On n'est pas loin de la cuisine et de la sorcellerie, quoi. Hein.
C'est vrai.
Mais en tout cas, la terre, c'est vivant, quoi. C'est sûr. Hein.
L'ombricompost, vous pensez que ça peut se faire sur les toilettes sèches? Parce que ça, c'est une autre matière qui sort de notre système.
Ouais, pourquoi pas. Je pense que ça a dû être testé, en tout cas.
Oui, mais j'ai pas d'expérience en tête.
Tiens, parlons un peu des toilettes sèches 5 minutes, parce que les toilettes sèches, pour rappel, c'est donc des toilettes sans eau, ou ça s'appelle aussi les toilettes à litière biométrisées. Je pense qu'il y a différents types de toilettes sèches, il y a les toilettes desséchantes. Là, on va plutôt parler de celles qui fonctionnent à copeaux, c'est celles que vous connaissez.
En fait, l'idée, c'est de récupérer les matières organiques issues du corps humain pour les composter et utiliser le compost après en humus pour la terre.
Je voulais juste dire que contrairement à ce qu'on a vu avant pour le compost en tas et tout ça, quand on a les matières fécales humaines, enfin, il n'y a pas de montée en température et tout ça. Donc ça, c'est la difficulté pour composter. On ne peut pas assainir par la montée en température si on met que du compost humain.
Il faudrait le mélanger avec autre chose.
Donc voilà, si on veut passer par la température pour l'assainir, on peut mélanger avec autre chose. De toute façon, compost, ça veut dire mélanger, composer. Donc plus on mélange de choses, et mieux ça fonctionne, quoi. Après, c'est une question de proportion. Par exemple, moi, je vais souvent à Terre Humanisme. Il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, il y a des grosses quantités de matière dans les toilettes sèches. Ben, elles seront gérées à part. Parce qu'il y a des grosses quantités. Il n'y aura pas assez. Il n'y a pas d'animaux là-bas. Donc, il n'y aura pas assez d'autres choses pour compenser.
Il n'y aura pas de fumier pour
aller avec. Mais par contre, elles sont gérées toutes seules, mais dans la durée. Quoi.
D'accord.
Qu'il faut 2 ans, en fait.
Ah oui.
Ouais.
D'accord.
Parce que ce n'est pas la montée en température. Quoi.
Pour
être sûr en fait qu'il n'y ait pas de germes qui puissent ensuite
des bactéries coliformes, ce genre de choses qui viendraient contaminer des légumes.
Oui, et puis souvent aussi dans les lieux collectifs, on va dire chez soi, on sait si on a pris des antibiotiques, des trucs et des choses comme ça, mais dans les lieux collectifs, on ne sait pas trop qu'est-ce que les gens ont pris comme traitement, donc on n'a pas de garantie sur l'évolution du compostage. Oui,
c'est pareil, la qualité toujours.
Bah oui.
On cherche à avoir un
produit. Parce qu'on fait du compost, on prend de la paille qui est bio, qui n'a pas de raccourcisseur ni d'hormones et tout ça, et on connaît les produits qu'on met dedans. Alors que là, les gens, chacun, ils peuvent avoir pris n'importe quoi comme médicament, comme plein de trucs.
En même temps, il faut bien commencer. C'est-à-dire que si tu n'as pas de paille bio, tu vas quand même...
Oui, mais ça fonctionne moins bien. Quoi. Ça peut fonctionner moins bien, parce que s'il y a des produits qui peuvent bloquer la montée en fermentation.
Le principe des toilettes sèches, on rappelle rapidement, il ne s'agit pas de rajouter du sable sur du popo. C'est des copeaux. C'est du bois qu'on met. Non, parce que souvent, quand on parle de toilettes sèches, le premier truc qui vient aux gens, c'est le rappel de la cabane au fond du jardin, qui avait chez les grands-parents, où il y avait un trou, ça puait, il y avait des mouches et du sable. Et puis voilà, c'était une fosse, quoi. Une fosse à purin, quoi. Je ne peux même pas dire, c'est à peine pire. Là, on cherche à maîtriser ce qui va s'y passer, et du coup, on va chercher à équilibrer entre les matières. on va dire d'origine humaine, pour dire ça gentiment, et les matières végétales qu'on va rajouter, les matières organiques sèches, au sens compost des matières sèches, c'est-à-dire carbonées, de la feuille, du copeau la plupart du temps, mais ça peut être de la balle de riz,
de la sûre.
Pour,
ou du broyat de bois.
Ou du broyat de bois, pour faire en sorte que, les réactions qui s'y passent ne soient pas des réactions ammoniacales, mais des réactions justement qui sont plus proches de celles qui se passent dans le compost, des réactions aérobies plutôt que des réactions de fermentation strictes qui déclencheraient des odeurs et des choses comme ça. Peut-être qu'on en reparlera si jamais on doit reparler de gestion de l'eau dans cette émission, parce que c'est quand même un des enjeux majeurs qu'il y a derrière les toilettes sèches. C'est que si dans une famille de 4 personnes, chacun tire la chasse d'eau allez, 2 fois dans la journée, ça fait 80 litres par un jour. C'est considérable quand on sait qu'on a besoin de pas tant que ça d'eau quoi, pour boire et cuisiner dans une seule journée.
Moi, je dirais même que c'est le point essentiel, quoi, parce que la qualité agronomique et tout ça, enfin bon, dans une famille, on va dire, c'est pas ça qui va faire notre apport en matière organique et tout ça, dans notre terre. Quoi.
Mm-hmm. Oui, tu veux dire qu'il en faut beaucoup plus.
Oui.
Mm-hmm. Oui, c'est que les toilettes sèches ne suffisent pas.
Pour une famille, en tout cas, c'est pas ça qui va,
pour
fournir qui va faire suffisamment
de... Uniquement les toilettes sèches. Mais ça peut être mélangé au compost des déchets organiques du jardin et de la cuisine.
Voilà, moi je trouve le mieux pour le gérer, c'est ça, qu'on a un compost qui va chauffer, donc on va mettre, comme on fait par couche, on va mettre une petite couche fine des matières de la toilette, des toilettes sèches, et après on remet autre chose et ça va passer à température, s'il y a des germes ils seront détruits, on est tranquille, quoi.
Ok, ben on va se faire une petite pause musicale, et puis après la pause on parlera... activateur, broyeur, broyat, BRF, mais ce sera après la pause musicale.
Quand je suis ivre, ivre de tristesse, quand je suis ivre, ivre de détresse, tant dégrisé et retrouver les couleurs qui se sont effacées, ne sont plus que des ombres.
FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et vous venez d'entendre Pauline Croze, Quand je suis ivre. Oh, 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 et ben quand je suis ivre, je suis dans Couleur Terre, ivre de joie et de plaisir. Nous parlons aujourd'hui de la matière organique avec Hélène et Estelle. Activateur, c'est souvent quelque chose qu'on trouve depuis le 1er janvier 2017. Il n'y a plus le droit normalement d'avoir des pesticides dans les jardins particuliers. Et dans les jardineries, du coup, il y a pas mal de gammes qui ont été remplacées par des activateurs biologiques, des produits divers et variés. Qu'est-ce que vous pensez des activateurs de compost? Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Parce qu'on parlait de levain tout à l'heure et qu'il fallait rajouter parfois un petit quelque chose. Est-ce que ça peut avoir du sens? Ou bien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ou bien.
Bien.
Donc, deuxième option.
Ah. En fait, tout est à portée de main. Il n'y a pas besoin de rajouter encore un élément. On a déjà beaucoup d'éléments dans toutes les matières organiques qui sont à disposition. Et aussi dans ce que contient la terre elle-même. Donc, il n'y aurait pas besoin de rajouter.
Il n'y a pas besoin d'acheter d'acheter quelque chose, mais même pas une petite tisane de quelque chose. Ou...
C'est surtout que le compost, il va démarrer tout seul par la vie microbienne du mélange à partir du moment où on a agencé et mis ensemble les bons matériaux. Mm. Donc, ça va se faire, ça va démarrer tout seul. Après, ça arrive qu'un compost ne démarre pas parce que soit on a mis trop quelque chose qui n'est pas bon, entre guillemets, à composter. Soit les conditions sont pas bonnes, enfin on a fait quelque chose qui va pas, mais à ce moment-là on peut l'activer de façon très simple en faisant un extrait fermenté d'ortie ou d'autres choses, hein. Un extrait fermenté qui va le stimuler, ou en, parce que par exemple s'il a pris trop de pluie, vous faites votre compost, il y a une grosse pluie qui arrive, il est complètement asphyxié, ben vous allez l'aérer un petit peu, faire des trous pour qu'il y ait de l'air qui rentre dedans. Il y a plein de choses qu'on peut faire et il n'y a pas besoin d'aller acheter. Et puis je pense que le compostage c'est quelque chose de... Si on fait du compost, c'est aussi pour aller vers l'autonomie dans son jardin, et que l'autonomie, ça passe par ne pas être toujours le porte-monnaie ouvert à acheter quelque chose, quoi.
Et en même temps, et là, je vais me faire un petit peu... Enfin, c'est un peu le fonctionnement, entre guillemets, sociétal, monoculture, de remplacer un savoir-faire par un produit clé en main, quoi, quelque part.
Peut-être,
ton compost a raté, on va te rajouter un activateur de compost, même si, en fait, c'est juste parce que t'as mis trop de bois sec à l'intérieur.
Par exemple, t'as raté ton truc, t'as mis trop d'eau. S'il démarre pas, souvent, c'est qu'il y a trop d'eau.
Les gens arrosent leur tas comme ça.
Voilà, donc à ce moment-là, même s'il est raté, le compost, il vaut mieux en refaire un à côté où on va reprendre du compost qui n'est pas bon, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 10% de quelque chose qui ne va pas bien fonctionner dans le compost. On refait un autre tas avec en éparpillant le mauvais, entre guillemets, et on redémarre. Si vraiment on n'arrive pas à le faire démarrer.
Mais quand même, tu as parlé d'extrait fermenté d'ortie. Il y a d'autres plantes qu'on peut rajouter. Parce que les extraits fermentés, rappelons-le, c'est des plantes avec un certain dosage. On vous laissera trouver ça. Peut-être que tu peux nous donner
quelques... On en parlera peut-être à la santé des plantes plus. Mais les extraits fermentés, on les fabrique nous-mêmes avec des plantes. Ça peut être l'ortie, ça peut être la bardane, ça peut être toutes les plantes communes en fait, qui sont autour de nous. C'est des plantes médicinales qu'on peut utiliser et qui vont avoir des effets un peu différents. Mais si on n'a pas d'ortie, on pourra prendre de la bardane, ou on pourra prendre...
La consoude ?
La consoude, elle n'aide pas forcément au démarrage, mais en tout cas, on trouvera une plante équivalente.
Pourquoi on dit qu'il faut mettre de la consoude ou de l'ortie dans le
compost ? Parce que ça enrichit le compost en fait en éléments nutritifs pour la plante après. Parce que le compost, il ne faut pas perdre de vue. Souvent, maintenant, en ville, on voit le compostage pour éliminer nos déchets, parce que c'est la consigne, on va dire. Les villes, elles mettent des composteurs à disposition parce qu'elles veulent payer moins pour mettre les déchets organiques en déchetterie. Donc, elles incitent les gens à composter. Mais le compost, c'est d'abord un engrais, un amendement organique pour notre terre. Et c'est ça qui va se transformer en humus après dans le sol si notre sol est vivant. Et c'est vraiment la base de la fécondité et de la fertilité de notre terre. Donc, c'est d'abord ça, quoi.
Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je peux rajouter que quand même, le fait de faire son compost en ville, ça suscite aussi, chez les citadins, l'envie d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec son compost, et ça apporte du sens, en fait. Et on a envie d'aller redonner le compost à la terre.
On peut faire ses propres extraits fermentés si on a envie, on peut aérer le compost si ça s'asphyxie, on peut refaire un tas de compost si c'est nécessaire, on peut ajouter un peu de ceci, un peu de cela, mais fait par nous-mêmes, on n'est pas du tout obligé d'acheter ce genre de choses. Tu me parlais des IM, des EM, des Efficient Microorganism pendant la pause musicale. C'est un truc qui vient du Japon, je crois. C'est quoi ?
C'est un concentré microbien, en fait. Mmh. Donc, c'est de la poudre, donc c'est des microbes en poudre, micro-organismes en poudre. Ouais. Enfin bon, en tout cas, et ça permet de démarrer un compost, d'assainir des fosses, pas des fosses septiques, mais enfin de ce genre. Et puis, c'est un concentré microbien. Mmh. Mais on peut très bien s'en passer aussi. Par contre, les gens qui font... J'ai vu en ville, justement, des gens, ils font un simili-compost, ils mettent leurs déchets de cuisine, des déchets de un peu n'importe quoi, ils mettent ça en poudre et ça évite les odeurs, par exemple, parce que du coup, ça enclenche une fermentation, mais qui est un petit peu différente, même complètement différente de celle du compostage, et ça assainit, quoi. Mais il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas de nécessité, si ce n'est une petite forme de confort.
Non. Oui, voilà, c'est ça. Okay.
Faisons confiance aux bactéries.
Et pour continuer dans le matériel, on peut parler broyeur, parce que on parlait de matière brune la dernière fois, et on a parlé du fait qu'il fallait broyer finement, en tout cas qu'il fallait qu'il y ait dans un compost une granulométrie, une taille des grains qui soit relativement uniforme, relativement homogène. Ça nous apporte à la question du broyeur, parce que quand on a de la matière organique, de la branche, etc., je l'ai fait une fois, je ne le referai plus jamais, on ne fait pas ça au sécateur. Non, mais j'ai passé une après-midi à couper de la branche au sécateur, c'est très long et puis c'est vraiment pas efficace. Donc, on part souvent sur un broyeur, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils?
Broyeur. Ben moi, je pense qu'il vaut mieux se grouper et acheter un bon broyeur costaud que prendre un petit broyeur qui coûte pas cher et où ça va tout le temps bourrer et ça va dégoûter de broyer. Et puis sinon, de se rapprocher des syndicats, de ceux qui font du broyage avec des broyeurs qui sont derrière des tracteurs et tout ça, dans lesquels on peut mettre tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, il ressort du broyat, quoi. Et ça, il faut voir. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien dans le jardin en agroécologie, etc. C'est que ça nous oblige quelque part à sortir de chez soi, à voir ce qui se passe, à voir où sont les ressources de matière organique, où sont les paysans, comment sont gérés les déchets organiques sur notre territoire, etc. Quoi. Mm-hmm. Et on trouvera forcément un endroit où il y aura un broyeur. Et il y a certaines communes qui le mettent à disposition des habitants, sous réserve que les habitants se regroupent, qu'il y ait un volume suffisant, parce que les broyeurs, ça débite, donc il faut qu'il y ait un volume quand même suffisant pour qu'ils le déplacent. Mais ça vaut le coup, parce que ça crée du lien, du coup, entre les gens d'un quartier.
Donc en fait, les communes mettent à disposition genre des bacs ou...
Non, oui, enfin, d'abord un bac pour que les gens... Mais en même temps, il ne faut pas que ça
bac,
soit...
C'est plus qu'un bac, c'est une benne.
C'est un conteneur, je ne sais pas comment on appelle ça, oui.
Ah, oui.
Oui. Ben, bac, un truc.
Un truc.
Un certain volume.
Un contenant énorme.
Voilà. Et après, il ne faut pas non plus que les gens mettent un mois à le remplir, parce que la plupart des broyeurs, même qu'ils soient à marteau ou à couteau, c'est pareil, il faut que ça soit vert. Il ne faut pas que le bois soit sec. Donc, ça veut dire que les gens d'un quartier, eh ben, ils se mettent d'accord sur une semaine, par exemple, en une semaine, on remplit la benne. Et puis après, le broyeur vient et broie, quoi. Parce que ça débite. Hein. Moi, je sais, j'en ai eu un et ça. Ça débite beaucoup, quoi.
Il n'y a qu'à voir les élagueurs, les branches qu'ils mettent là-dedans et la quantité de branches qui passent en l'espace de 3 heures de temps.
Mais après, on peut s'arranger avec eux quand ils sont au bord de la route ou un truc, apporter dans une remorque quand on n'en a pas beaucoup. Ouais. On peut apporter nos branches, ils passent au broyeur, on récupère un seau parce que c'est 10% du volume.
Le broyeur, ça, c'est très incroyable. C'est on a un peu, volume immense. On se dit, on peut couvrir mon jardin et à la fin, on peut couvrir une plate-bande et c'est de la chance.
Et encore, c'est 10% à peu près du volume. C'est rien du tout, quoi.
Mais du coup, ce soir de broyeur, ça nous emmène à parler du BRF, parce que alors, aujourd'hui, tout le monde fait du BRF. Tout le monde met, j'ai fait du BRF, tout le monde fait du BRF comme il fait de la permaculture et qu'il fait des bébutes. Mais le BRF, c'est quelque chose de très particulier. C'est aussi une destination de notre matière organique, donc ça peut être utile qu'on passe 3 minutes là-dessus.
Oui, puis BRF, c'est boire améal fragmenté, c'est pas tous les broyats sont pas du BRF. Que ça soit coupé pendant que c'est encore en sève, le bois, que ça soit des branches qui ne fassent pas plus de... Bon, 5-6 cm de diamètre, donc des petites branches. Mm-hmm. Pas tous les bois mélangés.
Oui, donc quoi. C'est vraiment pas du bois ancien, c'est
non,
vraiment
non, du bois
récent.
Non, non, c'est du
récent.
Bois de l'année. Et puis après, on met une petite quantité et ça va être réincorporé. Donc, il sera vert, le broyat. Mm-hmm. Et il sera réincorporé dans la couche superficielle du sol. Donc, ça n'a rien à voir avec du broyat.
On cherche à l'incorporer, vraiment.
On le
griffe.
On le mélange. Et on en met très peu. Alors que le broyat, c'est du bois qui a été broyé quand il était vert, mais qui après a pu traîner, etc. Et n'importe quel bois, ça peut être... Si le broyeur est assez gros, on peut passer des gros troncs, n'importe quoi, enfin, tout ce qu'on veut. Quoi.
Mais quand on parle, j'ai l'impression que le BRF... C'est encore un ingrédient de type levain ou c'est pas un ingrédient grossement structurant, mais que c'est quelque chose qui va activer quelque chose.
Ça va activer la vie des champignons surtout.
D'accord.
Au niveau du sol, il y a un certain type de champignons qu'on n'aura pas forcément par ailleurs, quoi. Mais par contre, il y a tout un protocole à respecter sur donc le moment où on coupe, la grosseur des rameaux, comment on le met en surface, quand est-ce qu'on l'incorpore. Donc c'est tout un processus. Alors que le broyat, ça veut juste dire on a broyé du bois n'importe quand, on le met en surface et là on en met une dizaine de centimètres et puis on le mélange pas à la terre, on s'en sert juste en couverture.
D'accord.
Donc c'est des protocoles complètement
différents. Broyat, couverture, BRF, champignons.
Est-ce qu'on peut dire que le BRF c'est le support qui va démarrer un humus en fait?
Alors un humus de surface quoi.
Voilà.
Donc
c'est sur
pas vraiment le terme d'humus, mais bon, oui, ça
sur les sols pauvres en fait. C'est une technique qui est pratiquée pour réensemencer les sols.
Mais pas
très
des sols pauvres, non, parce que tu peux bloquer la matière organique. Le BRF va pas forcément fabriquer de la matière organique qui sera à disposition des plantes. Donc c'est vraiment à doser. Il faut que le sol soit vivant pour que le BRF soit incorporé dans le sol. Si tu as un sol mort et que tu mets du BRF, et ben tu peux tout bloquer. Donc ça remplacera pas la vie du sol, mais ça apportera d'autres éléments, plus champignons, plus donc c'est pas de toute façon c'est parce qu'à un moment maintenant ça passe peut-être un peu, mais parce que maintenant c'est la permaculture qui est en vogue, avant c'était le BRF. À chaque fois il y a des modes comme ça, mais il y a jamais quelque chose de valable de partout sur la terre entière. Tout ça c'est à chaque fois adapté à son coin. Le BRF il est né à Madagascar et quand les gens ont fait ça, maintenant ils ont dû au Québec même déjà ils ont commencé. Et avec le froid, justement, au Québec, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à un blocage de la matière organique et que donc, ce n'était pas une solution qui était à très, très long terme forcément idéale.
Blocage de la matière organique, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la matière organique, elle était entourée pratiquement d'une gangue qui était impénétrable par les racines des plantes. Elle était vraiment bloquée, quoi.
OK.
Ouais. Donc, ce n'est pas du tout une solution universelle à appliquer systématiquement. Moi, ce que je dis souvent aux jardiniers ou aux agriculteurs, c'est de prendre un morceau de leur terre et d'essayer là-dessus. Mais en suivant vraiment le protocole.
Un morceau de leur terre, c'est-à-dire une surface.
Une parcelle,
oui.
Et d'appliquer le BRF en suivant bien le protocole, c'est-à-dire en prenant bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et de le faire là et de voir comment leur terre réagit. Mais c'est à long terme. Parce qu'une terre, ça vit sur des milliers d'années, ça vit pas. Il faut faire ça au moins sur 10 ans, quoi, pour voir. C'est pas comme ça, juste sur une saison ou deux, quoi.
Il s'agit de rééquilibrer, de ramener quelque chose, de favoriser les champignons, qui, rappelons-le, sont les intestins, entre autres, de notre sol. Et si c'est pas ces intestins-là qui travaillent, ce sont ceux des limaces. Donc, parfois, un excès de limaces est un manque de champignons. Bref, BRF, broyat, c'est pas la même chose. Si vous faites du broyat, soyez-en fiers aussi, mais ne dites pas que vous faites du BRF. On se revoit après la pause musicale de Pauline Croix.
Sa voix se perd.
quelques années déjà, elle est. Oh, 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 dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Oh, se perd. Elle s'est laissée aveugler par le mal en elle enracinée. Elle ne veut plus mettre à la lumière son intimité blessée. De flirter avec les extrêmes, Tita de sa vie perd le sens même. À force de repousser les limites, perpétuellement Tita prend la fuite. Tita rêve d'un amour canicule, Tita parle d'un monde funambule. Tita crève dans le désert aride, prise au piège de sa peur du vide. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Depuis quelques années déjà, elle est, oh, 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 dans la nuit, l'écho de sa voix se perd.
FM 97.1. C'était Pauline Croze pour son titre Tita, que j'avoue avoir choisi parce que nous avons Titane dans le studio. Ouais, elle me fait des gestes. Alors, à la radio, les gestes ne se voient pas.
Ah. Merci, Floem.
Mais voilà.
Pour l'intention.
Mais voilà, parce que Tita vit un amour canicule et c'est tout à fait le cas de Titane aussi. Donc, c'était exactement adapté pour elle. Nous parlons matière organique dans Couleur Terre aujourd'hui. Et puis, nous allons parler, pour finir tranquillement cette émission, des autres manières de destiner de la matière organique. Alors, une des manières de faire, c'est de laisser des racines, c'est ça, par exemple ? De, quand on a un engrais vert, on coupe ce qui est au-dessus et puis on
ah bah
laisse ce qui est en dessous.
Pas quand on fait un engrais vert, non.
Non, alors dis-moi, non. J'aime bien dire des bêtises. Comme ça, je reçois après du courrier en me disant vous êtes un idiot, laissez-le à parler plus tôt. Parfait. Alors.
Non, mais l'engrais vert, par définition, on laisse tout sur place. Ah. Donc, y compris les racines, les feuilles, tout, quoi. Alors que là, dans la gestion de la matière organique, on peut... déjà, l'engrais vert, par contre, les racines vont rester sur place. Mm-hmm. La plante va être broyée et incorporée. Donc, ça va enrichir le taux de matière organique en matière organique donc fraîche, quoi, semi-fraîche. Mm-hmm. Donc ça, déjà, c'est...
Si le sujet vous intéresse, réécoutez
voilà,
l'émission
en a parlé
de la dernière fois.
Je sais pas si c'était la semaine dernière.
Si, c'était la semaine dernière.
Ouais.
Vous n'avez pas fait la semaine dernière. Enfin bref, la dernière fois, en tout cas. Et puis il y a le fait de laisser des racines sur place.
Alors,
ça,
oui,
par
ce
contre,
que oui.
C'est pas en lien avec les engrais verts.
Non, c'est pas en lien avec les
récolte,
engrais verts.
Plutôt.
Voilà, mais quand on récolte, on coupe, on laisse les racines dans la terre, quoi. Et mm-hmm. on laisse les feuilles fanées, etc. On laisse un maximum de choses qui vont composter. Donc c'est la matière organique fraîche qui va composter sur le terrain, qui fera pas beaucoup d'humus, mais qui sera quand même, qui va avoir d'autres intérêts. C'est par exemple quand on laisse une racine, tout autour il y a toute la vie de la racine, on va dire. Il y a toute la rhizosphère, il y a toutes les mycorhizes, il y a toute cette vie de la racine. Et c'est dommage d'enlever ça, que la vie microbienne a pris du temps à faire, à fabriquer. C'est dommage de l'enlever et de le mettre ailleurs, alors que c'est à ce niveau-là que se font tous les échanges entre les plantes et la terre. Donc ça, c'est important de le laisser dans la terre. Voilà, donc ça, ça fait de la matière organique qui reste sur place.
Et puis... ça doit faire à peu près au moins 25 minutes qu'on n'a pas parlé du paillage dans cette émission, donc il est temps qu'on en reparle. C'est une émission sur le paillage, hein, vous l'aurez compris. Ça fait à peu près, ça fait 12 émissions ou à peu près 3 fois par émission on parle du paillage. Mais bon,
on a qu'à parler de couverture du sol.
Couverture du sol, voilà, parce que différent. Si on n'a pas de paille, on peut couvrir le sol avec autre chose. Mais ça, vous commencez à l'avoir compris. Mais en même temps, c'est aussi une manière de gérer la matière organique.
Oui, parce que qu'on prenne du vieux foin, de la paille ou tout ce qu'on veut, ben en fait la couche qui va être à l'interface avec la terre, elle va être incorporée dans la terre petit à petit par la vie microbienne et les organismes, même les gros animaux, tout ce qui vit dans la terre, et ça va faire de la matière organique à disposition.
Voilà, comme quoi on aura encore réussi à parler du paillage même en ayant peu de temps. Merveilleux. Et puis il y a un thème que tu voulais particulièrement aborder, enfin tu disais que ce serait important d'aborder, c'était la question de l'humus.
Oui, mais parce que l'humus c'est la partie organique justement de la terre, parce que la partie minérale, donc elle vient de la dégradation de la roche mère. Là-dessus on va pas tellement jouer, surtout en agroécologie ou en permaculture, on va pas faire des amendements forcément, on peut en faire, mais c'est pas la base de la façon de faire. Donc l'humus, c'est vraiment là-dessus que va porter notre la culture. Donc ça, c'est à nous de l'entretenir, et c'est la responsabilité de l'agriculteur ou du jardinier de garder son humus en quantité suffisante et en qualité aussi suffisante. Donc cet humus, comment on l'entretient? On l'entretient puisqu'on enlève des légumes, on enlève des fleurs, on prélève dans le sol quelque chose, de la matière organique. Notre responsabilité, c'est de le remettre, et de le remettre, que ça puisse se passer sous forme d'humus, parce que quand c'est sous forme d'humus, ça va s'allier avec le minéral, et c'est ça qui va faire notre terre, et c'est ça qui va faire sa cohésion, qui va faire qu'elle va rester là, qu'elle va pas partir dès qu'il va pleuvoir. Bon, il n'y a pas que ça, mais disons que c'est vraiment la base de notre terre, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête et de l'entretenir.
En rajoutant de la matière organique autant que possible.
Alors, soit en la rajoutant, soit en faisant en sorte, parce que nos plantes, par exemple les racines des plantes qu'on coupe, par exemple, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique qui est fraîche, qu'on peut mettre donc fraîche, ou bien on peut couvrir aussi avec de la matière organique fraîche qui va protéger le sol et après s'incorporer petit à petit avec les vers et tous les animaux du sol, ou bien on va mettre de la matière organique qui sera déjà transformée par nous sous forme de compost. Mais on peut mettre sous n'importe quelle forme. En tout cas, nous, notre responsabilité, c'est de gérer cette matière organique et cet humus, quoi. Et donc, de penser tout le temps, quand on est en train de faire soit son compost, soit qu'on fait des plants, on fait pousser nos plantes, etc., de penser au lien qu'il y a, même au niveau du mot, entre humus, humanité, c'est la même racine. S'il n'y avait pas d'humus, il n'y aurait pas de culture. S'il n'y avait pas de culture, les grandes civilisations égyptiennes ou toutes celles qu'on veut, elles ont décliné au fur et à mesure que le taux d'humus déclinait dans leur sol.
Oh, ben on est mal barré.
Ben oui. On est bien d'accord. C'est pour ça que c'est important de garder nos terres là où elles sont, de ne pas laisser ficher le camp toutes les terres avec l'érosion, la pluie et tout ça. Donc de couvrir nos sols, de mettre des plantes qui poussent.
Ah, le paillage, ça nous manquait.
Mais on n'est pas obligé. On peut mettre des plantes qui couvrent le sol, hein, des couvre-sols, et puis c'est très joli. Ou des, n'importe quoi, pourvu que la terre ne soit pas nue, exposée aux intempéries, au soleil, à tout ce qu'on veut, quoi.
Ils reçoivent. Reçoivent la pluie avec douceur plutôt qu'avec
que la pluie puisse s'infiltrer.
Ça se passe bien. D'autres moyens d'autres pistes de réflexion autour de la gestion de la matière organique. Là, j'ai l'impression qu'on ne va pas rester sur notre fin. J'ai l'impression qu'en 2 émissions, on a fait à peu près.
Si vous n'avez pas de composteur, si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas de lombricomposteur, vous pouvez quand même aller mettre vos déchets organiques quelque part. Dans le jardin d'un voisin.
On va être content, tiens.
Sous un buisson.
C'est ça. Le jour où vous avez oublié dans votre poubelle du melon et des carapaces de crevettes, n'hésitez pas, après 10 jours, à les mettre dans le jardin de votre voisin. Vous allez voir que vous
allez être
content.
Mais on
marchait tout seul.
Il faut l'enfouir.
Oui, vous pouvez aussi partager ça. Ou le mettre en forêt, si c'est...
Ou le mettre en forêt, si on n'est pas trop loin.
Oui, moi je fais ça quand je suis en vacances, par exemple, je ne fais pas mon compost. Je mets dans un sac en papier, et puis quand je me balade, je balance mon sac en papier dans un coin de la forêt.
Avec le sac en papier?
Oui.
Oui, le fait de le jeter, de toute façon, ça le vide. Et puis le papier, ce papier, ça fait de la... On peut très bien me donner, par exemple, tout à l'heure, on parlait du carton, on peut très bien donner du papier.
Je joue Estelle qui fait une drôle de tête.
Non, au contraire.
Je prends dans les sacs, c'est des sacs en craft.
Pareil.
Ouais, comme ça, ça excuse tout, ça même nourrit. Le caca au bord des routes avec du papier cul. Bah oui, non, mais je veux dire.
Ah bah, après, c'est pareil, juste.
Après, hein, le papier hygiénique, souvent, il est rose, vert, parfumé, ouais, machin.
C'est juste de,
ça,
la de la pollution visuelle. Ça, c'est
et
vrai odorant, que ça reste
odorant,
pas...
quelquefois.
Oui, bien sûr.
Non, mais il faut le cacher. Mais après, ça fait de la nourriture pour toute la vie qui est dans la partie, dans la litière du sol. Hein. Donc, elle saura quoi en faire, sinon, on ne sait pas quoi en faire, plutôt que de le mettre à la poubelle.
Ouais, on va éviter de mettre nos nutriments à la poubelle.
Oui, et puis moi, ce que je trouve intéressant quand on commence à gérer notre matière organique, c'est que forcément, par exemple, les compostages en pied d'immeuble, instaurer des choses comme ça, ça nous fait poser des questions et du coup, ça nous remet dans le cycle de la vie. Alors qu'en ville, la plupart des gens, ils sont dans des cycles un peu mortifères.
Ils sont un peu hors sol.
Hein. Oui, complètement hors sol. Donc là, ça oblige à revenir vers ce qui est vivant, même si, moi, j'avais montré du compost là où j'habite à des jeunes. Et elle trouvait c'était joli, elle le sentait, elle le regardait, elle disait ah, c'est super, elle le touchait, tout ça. Puis après, elle dit comment vous faites ça? Ben, je dis je mets les épluches. Ah, c'est dégoûtant. Du coup, elles étaient complètement. Elles voulaient plus y toucher, quoi. Et c'est un peu réconcilier les gens avec notre matière, quoi, parce que le carbone, de l'eau, l'oxygène, c'est quand même notre corps. Hein.
Puis donc, c'est encore une fois pousser les gens à s'occuper d'eux-mêmes, parce que c'était. C'est mon intro la première fois, c'est aussi remettre devant soi et devant son propre nez les conséquences de ses actes et les conséquences de ce qui est nécessaire à sa propre vie, que ce soit au niveau des sources comme des effluents. Et ça compte de ne pas forcément faire en sorte que tous ces trucs-là soient gérés au loin, ailleurs, loin des yeux, loin du cœur.
Ouais. Plus les transports que ça nécessite les et tout transports. Ça, quand c'est récupéré, parce qu'il y a des villes où c'est encore pas organisé pour être récupéré. Hein.
Donc, et puis il y a quelque chose qui nous enseigne aussi dans la transformation. C'est quand tu disais que tu avais montré le compost à des jeunes. Quand on part justement de quand on se rend compte en fait qu'on part de déchets organiques et que on va vers une matière brune et que quelque part, enfin, il y a quelque chose qui nous échappe même visuellement. Maintenant, on arrive à le comprendre scientifiquement, mais il y a tout un processus de transformation qui est vraiment extraordinaire, en fait. Et là, on comprend que là, il n'y a rien qui ne se perd, en fait. Il n'y a pas de déchets. C'est, tout se transforme.
Oui, puis ça fait le lien entre l'humus et l'humanité et le lien avec la terre, quoi. Comment, sans cette nourriture-là, l'homme ne peut pas vivre, quoi.
Et oui.
Donc ça, c'est... Même s'il y en a qui ne mangent que des trucs... industriels à longueur de journée, bah quand même, ils peuvent prendre conscience de ça. Donc ça, c'est super important.
Mais même une pizza, ça se composte. Ouais.
C'est pas du tout industriel.
Non, c'est vrai, t'as raison. Je retire ce que j'ai dit, mais
pizza,
c'est pour dire...
Non, mais une pizza, c'est pour être mangée.
Non, mais c'est juste... C'est vrai, c'est une autre idée. Tu as raison, c'est une autre idée. C'est-à-dire qu'on peut... Pas seulement composter ses épluchures, mais aussi des produits qui seraient déjà
un peu désagréables, quoi. Okay. Je conçois. Bah, je crois que c'est la fin de cette émission. C'est une jolie conclusion. Après avoir parlé de choses parfois un peu fétides, de reparler de la transformation et de faire remonter, redonner de la noblesse à ces produit, je trouve que c'est une belle manière de terminer. C'était Couleur Terre, une émission décompactée grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère, une émission préparée par Titane Houben et avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo Msev, bonjour, de Radio Permaculture, avec Hélène Ollard. Au revoir Hélène.
Au revoir.
Et aujourd'hui Estelle Meignan de l'association Nouveau Voyage. Au revoir Estelle.
Au revoir.
Vous pouvez réécouter cette émission. Ah oui, j'ai pas demandé à... Au revoir, Titane.
Je vais aller composter mon billet de train.
Et partir. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org. Tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. C'était Couleur Terre. Cultivons la vie.
Couleur Terre, cultivons la vie,
une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.